Karine Bassi, sociologue et maître de conférence, notamment à Paris 13.
Voilà.
Ressources.
Et donc, je suis ravie de m'exprimer devant vous. Et donc, justement, Juliana Veras est une de mes anciennes étudiantes dans le master en santé, population, politique sociale, qui est un master commun à l'Université Paris 13 et à l'École des études en sciences sociales. Et actuellement, donc de l'autre côté du couloir, dans l'autre atelier, il y a aussi une autre de mes anciennes étudiantes sociologues, aussi en thèse de sociologie, Laura Dutra-Bellecci, qui fait une thèse sur la surprescription des médicaments chez les personnes âgées. Donc vous voyez, cette année, la sociologie est bien présente avec la relève, avec la jeune génération qui arrive. Donc moi, je vais vous parler de mes travaux sur le dépistage prénatal non-invasif pour donc répondre à la question que vous avez posée comme titre un peu de cet atelier, à savoir est-ce que les recommandations peuvent conduire à la surmédicalisation. Et donc ma réponse est oui, sans embâge. Donc en fait, ce que je voudrais montrer ici, c'est qu'il s'agit peut-être moins de liens d'intérêt économique, puisque c'est ce dont on a parlé majoritairement depuis le début de la journée, hein, le lien économique. Et moi, je voudrais montrer une autre forme peut-être d'influence, une influence idéologique, hein, imposer une certaine idée de la santé, une certaine idée de ce qui est sain, en bonne santé, normal. Voilà. Donc je vais vous parler du dépistage prénatal non-invasif. Un nouveau test a été mis au point pour dépister la trisomie 21 chez le fœtus et d'autres anomalies, la trisomie 13, la trisomie 18, et certains tests vont examiner aussi les anomalies de chromosomes sexuels et d'autres tests aussi des anomalies génétiques rares, selon les offres différenciées des entreprises qui ont breveté ces tests. Ce sont des entreprises états-uniennes. Et donc, le test a été utilisé pour la première fois en France en 2013 dans une clinique privée qui proposait, au prix de 1 500 € pièce, hein, avec envoi des échantillons de sang aux États-Unis. Donc, c'est un test sanguin où on examine les grains d'ADN fœtaux qui circulent dans le sang maternel. Et donc l'arrivée de cette innovation technique repose la question de savoir jusqu'où il faut aller dans la médicalisation des grossesses. Les grossesses, elles sont déjà fortement médicalisées en France, hein, quand on compare par rapport à d'autres pays européens. Il y a beaucoup de tests qui sont faits, beaucoup d'examens tout au long de la grossesse, et en particulier pour la trisomie 21, les grossesses sont très fortement médicalisées. Donc il y a déjà des tests pour le diagnostic cardiotique fœtal fait sur une amniosynthèse. Ça c'est depuis les années 70. Ensuite il y a eu des tests de dépistage qui sont développés, l'échographie avec différentes mesures, notamment la carte médicale, et puis les marqueurs sériques maternels, le dosage d'hormones dans le sang de la femme enceinte, deuxième trimestre et au premier trimestre. Donc on a déjà toute une batterie de tests qui existent. Donc quand ce nouveau test génétique est arrivé, ça a posé la question de savoir à qui on va proposer ce nouveau test. Est-ce qu'on le propose à toutes les femmes enceintes ou à des sous-groupes de femmes enceintes? Et puis, est-ce que ce test va remplacer certains des anciens tests? Et puis, à quel prix va-t-il être financé par la collectivité? Pour la sécurité sociale, ça pose une question qu'on a déjà posée ce matin. Le coût pour le système de sécurité sociale solidaire, comme vous l'avez dit. Alors donc, moi, j'ai regardé les recommandations faites par la Haute Autorité de Santé sur ce nouveau test. J'ai été invitée à faire partie du groupe d'experts de la Haute Autorité de Santé parce que j'avais publié des articles de sociologie là-dessus et qu'ils ont trouvé mes articles dans une base de données, la base de données Kern, qui recense les revues de sciences humaines et sociales. Donc j'ai pu voir le processus d'élaboration des recommandations de l'autorité de santé de très près. Et donc là, je vais donc vous dire deux mots du rapport de 2017. Donc, la HAS a fait deux rapports. Un premier rapport en 2015 sur la performance clinique des tests, qui a conclu qu'effectivement c'était d'excellents tests, s'ils avaient un très bon taux de détection, ils avaient une très bonne sensibilité, une très bonne spécificité. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième rapport fait en 2016-2017, qui était un rapport qui portait sur l'évaluation médico-économique du test, donc pour faire des recommandations de bonnes pratiques. Comment l'utiliser, à quel moment, pour qui, etc. Le groupe de travail a conclu très rapidement, avec les évaluations faites par les économistes de la HAS, que le test était beaucoup trop cher pour être utilisé en stratégie universelle, c'est-à-dire être proposé à toutes les femmes enceintes comme premier test de dépistage de la trisomie 21, parce que le test coûte actuellement encore 400 euros. Donc 400 euros, il y a 800 000 femmes enceintes en France. Donc, voilà, les pays se sont dit, bon, non, ça c'est trop cher. Mais... Et donc, le test, donc, la recommandation c'est d'utiliser le test en seconde intention pour les femmes qui ont déjà passé les anciens tests, le test de dépistage combiné avec une échographie et le marqueur sérique maternel du premier trimestre. Et donc, le test ADN va être proposé uniquement aux femmes qui ont un risque élevé avec les anciens tests. La seconde recommandation, donc d'abord l'utiliser en seconde intention seulement, et la deuxième recommandation, c'est qu'il faut baisser le seuil de risque qui était de 1 sur 250 aujourd'hui, hein, avec les anciens tests combinés. Quand une femme a un risque compris entre 1,5 et 1 sur 250, on lui conseille de faire une amniosynthèse interméthique. Et donc la recommandation ici a été de baisser le seuil de risque pour recommander le nouveau test ADN à toutes les femmes, mais un plus grand nombre de femmes, celles qui ont un risque compris entre 1 sur 2 et 1 sur 1000. Voilà. Donc évidemment, ça. Alors donc moi je conclue que c'est une surmédicalisation, dans le sens où c'est une étape supplémentaire de la médicalisation, et en plus une étape chère, coûteuse sur le plan économique, avec un certain nombre de conséquences négatives. Donc moi ce qui me frappe, c'est que donc le test va être proposé à 50 000 femmes, alors que jusqu'ici, il y avait à peu près 20 000 femmes enceintes à qui on déclarait « Vous êtes à un risque élevé, un risque supérieur à 1 sur 250, donc on vous recommande de faire un cardiotype, une amniosynthèse, parce que votre risque est élevé. » Donc aujourd'hui, on va tenir le même discours à 50 000 femmes. Et ça, c'est embêtant, parce que les psychologues et les sociologues, et même les psychiatres, ont montré qu'en consultation, il y a vraiment un déficit d'information qui est donné aux femmes enceintes et qu'on aboutit à des situations extrêmement anxiogènes pour les femmes qui reçoivent ce résultat. Vous êtes à risque élevé de trisomie 21 fœtale. Donc là, ça veut dire que les coûts psychologiques, entre guillemets, n'ont pas été pris en considération. Et le coût économique du dépistage va passer de 66 millions par an à 84 millions par an, parce que comme il y avait des économistes, ils ont pu évaluer très précisément le coût de chacune des stratégies, y compris donc de celle qui a été retenue au final. Donc aujourd'hui, on a une stratégie de dépistage, l'actuelle, qui coûte 66 millions par an. Si on n'avait pas changé le seuil de risque, c'était un prix inchangé, un coût inchangé, parce que le nouveau test ADN est plus cher, mais on va faire des économies sur le cardiotype, on va faire moins de cardiotype, puisque le nouveau test fait beaucoup moins d'erreurs, beaucoup moins de faux positifs, etc. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ce groupe d'experts s'est finalement prononcé pour une stratégie qui médicalise plus les grossesses, et qui coûte 18 millions d'euros de plus par an. Et tout ça, quel bénéfice sur le plan clinique? Eh bien, 80 fœtus avec plus de 21 supplémentaires chaque année avec cette nouvelle stratégie par rapport à la stratégie des tests ADN, mais en gardant le même seuil de risque à 1 sur 250. Donc ça fait 18 millions pour diagnostiquer 80 fœtus par an, chaque année. Ça fait quand même un prix assez considérable. Voilà, et donc pour finir, donc pourquoi est-ce qu'on arrive à cette surmédicalisation coûteuse sur un certain nombre de clans? Bon, alors là, il y a un sociologue britannique qui s'appelle Andrew Webster qui a regardé les recommandations de bonnes pratiques cliniques, comment elles sont faites par les agences qui évaluent les innovations biomédicales. Et il a montré que sur une même innovation biomédicale, différentes agences en Europe peuvent faire des recommandations très différentes. Pourtant, elles évaluent la même innovation à partir de la même littérature scientifique internationale. Et donc, il a dit, s'il y a ces différences, pourquoi? C'est parce que les comités d'experts ne sont pas composés de la même manière dans toutes les agences européennes. Et qu'en fonction des experts qu'on choisit, eh bien, les experts vont choisir certains critères plutôt que d'autres. Et c'est notamment vrai sur le plan des évaluations économiques aussi. Donc, le type de recommandation dépend fortement de la composition du comité des experts. Dans ce comité d'experts de l'autorité de santé, il y avait une écrasante majorité d'obstétriciens, de généticiens, de biologistes, de spécialistes de chimie et d'échographistes. Voilà. Et donc, j'étais évidemment la seule représentante des sciences humaines et sociales, et il y avait une représentante des usagers. Il y avait aussi une représentante des médecins généralistes. Il y avait une représentante des sages-femmes aussi. Mais après, il faut voir aussi les prises de parole, hein. Et évidemment, il y a un peu des déséquilibres dans les temps de parole des uns et des autres. Ouais. Et ce qu'il faut voir aussi, ce qui pousse à la surmédicalisation, c'est les sociétés savantes, hein, pour revenir sur le type de la question qui coiffe cet atelier. Parce qu'en fait, les sociétés savantes de cytogénétique et d'obstétrique se sont prononcées pour le changement du seuil de risque, l'abaissement du seuil de risque, avant que le groupe de travail se mette à travailler. Donc il y avait déjà le poids des sociétés savantes, et puis déjà des premières pratiques dans les hôpitaux universitaires, en particulier en région parisienne, qui allaient déjà dans ce sens-là. Donc voilà, une surmédicalisation et une influence d'une idéologie. Hein. Il faut améliorer le taux de détection, quel que soit le coût. La priorité est donnée à l'amélioration du taux de détection. Et en revanche, aussi, peut-être pour finir là-dessus, quelque chose qui est complètement négligé, j'ai essayé de faire valoir en vain, c'est l'information des femmes enceintes. Donc là, on en a très très peu parlé, il n'y a aucune proposition concrète là-dessus dans le rapport. Et j'ai aussi essayé de faire valoir le besoin de formation des professionnels de la santé. Et là aussi, c'est pareil, il n'y a aucune proposition concrète sur comment améliorer la formation des professionnels de la santé. Ça reste énoncé comme des grands principes. Il faudra donner les bonnes informations aux femmes enceintes et il faudra que les professionnels de santé soient bien formés.
Ça, merci beaucoup. Ça pose une nouvelle fois la question de l'accompagnement.